Le journal Mireille Boucata. L'eau coule toujours au robinet des Licassis, ceci malgré la mise en garde lancée par la ministre provinciale de l'Environnement contre la consommation de cette eau qui provient d'une rivière affectée par des minerais radioactifs y déversés il y a une semaine. 8 morts, 16 blessés, bilan d'un accident de circulation samedi dernier à Goma. Les rescapés de l'accident accusent une panne technique du véhicule alors que la police spéciale de roulage pointe du doigt la surcharge du véhicule. Des agents de la régie des voies aériennes en grève à Guémena, province de l'Équateur. Ils protestent contre le non-paiement de leur salaire depuis 9 ans. Bonjour. Pour protéger la population contre les effets radioactifs, deux stations de captage d'eau des Licassis ont suspendu l'approvisionnement de la cité en eau potable depuis vendredi dernier, affirme le directeur d'exploitation de la Gécamine Licassis. Ces deux stations qui appartiennent à la Gécamine captent l'eau dans les rivières Moura et Panda, dont l'eau a été polluée par des minéraux radioactifs il y a une semaine. Cependant, les habitants de la commune Panda des Licassis affirment que l'eau coule au robinet depuis samedi dernier et il continue à la consommer. Le point avec Denise Maéro.
Lors de sa visite de travail la semaine dernière à Licassis, la ministre provinciale de l'Environnement a déclaré que les stations de captage d'eau de Panda et Moura sont affectées par les minéraux radioactifs déversés dans la rivière Moura. Cette rivière fait une jonction avec celle de Panda. Thérèse Lukenge lançait ainsi une mise en garde contre la consommation de cette eau par la population. Selon le directeur d'exploitation de la Gécamine Licassis, les échantillons d'eau ont été prélevés dans la rivière Moura. Après examen, il a été constaté que le taux de radioactivité dans cette eau est normal. Mais la Gécamine, propriétaire de ces stations de captage d'eau, a tout de même décidé de suspendre la distribution de l'eau. Près de 200 000 personnes de Licassis seraient ainsi privées de l'eau potable. Mais les habitants de la commune Panda contactés affirment pour leur part que la coupure d'eau n'a duré que 2 jours. Depuis ce samedi, l'eau coule de nouveau au robinet et ils la consomment malgré eux. Du côté de la régie des eaux Licassis, l'on affirme que les échantillons prélevés sont encore sous analyse. Lubumbashi, Denise Maheur, Radio Okapi.
8 morts et 16 blessés, bilan d'un accident samedi dernier à Goma d'un véhicule en provenance des Bambous, toujours dans le Nord Kivu. Certains rescapés parlent d'un problème technique, d'autres affirment qu'environ 30 personnes étaient perchées au-dessus des sacs de cossettes de manioc que transportait ce véhicule. Pendant qu'une enquête se déroule, les services de l'État et les transporteurs se rejettent mutuellement la responsabilité sur cet accident. Bernard Danyangi nous fait le point.
Cet accident est arrivé aux environs de 20h locales, à environ 3 km de l'aéroport de Goma. Il serait causé par un problème technique, disent quelques rescapés, qui expliquent que juste au niveau de la barrière, à environ 300 mètres du lieu de l'accident, le chauffeur a forcé le démarrage et dans la descente, le frein a refusé de ralentir et le véhicule a fini sa course au bord de la route avant de se renverser sur les laves. Le commandant de la police spéciale de roulage Nord Kivu dit forcer jusque-là la mesure de l'exécutif provincial interdisant le transport de passagers sur les bagages. Mais du fait qu'il n'y a pas encore de minibus pouvant fréquenter plusieurs axes de la province, leurs efforts n'aboutissent à rien. La SONAS et le Service national de prévention routière disaient eux que leurs équipes mènent encore des enquêtes pour réunir toutes les données sur cet accident avant de se prononcer. Le gouverneur de province, lui, ne s'est pas encore prononcé à cette question. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Il est condamné à perpétuité. Agenonga Oforunyo, alias Kwisha, a reçu son verdict du tribunal militaire de garnison de Bunia en Ituri. C'était hier lundi. Cet ex-milicien âgé de 24 ans est l'assassin d'un de deux observateurs militaires de la MONUC, assassiné le 25 mai 2003 à Mongualou, une localité située à 90 km au nord-ouest de Bunia. Sadala Chabani a assisté à cette audience.
Le condamne à la servitude pénale à perpétuité, peine unique la plus forte, confirme sa détention.
Ce lundi matin, le tribunal militaire de Bunia a condamné Agenonga Oforunyo, alias Kwisha, un ex-milicien de FNI, Front des nationalistes intégrationnistes de Floribert Ndjabou. Il est condamné pour avoir tué, le 24 mai 2003, par une balle à la tête, le major Safat Oran, un observateur militaire jordanien de la MONUC affecté à Mongualou. Ce même jour, un autre observateur de la MONUC, le capitaine Davis Banda de la nationalité malawite subissait le même sort. La MONUC, qui est satisfaite de cette condamnation, a aussi à cette occasion rappelé la mission des observateurs militaires. Mounoubaï Manodje, porte-parole de la Monique Anitouri, précise.
Finalement, justice a été rendue et que le coupable de ce meurtre ignoble et condamnable a finalement reçu la peine qui lui revient. Nous voulons profiter de l'occasion pour rappeler que tous les observateurs militaires de la Monuc qui sont non armés sont ici dans le cadre du processus de paix et il est triste qu'ils soient l'objet d'attaques injustifiées et qu'ils perdent ainsi la vie.
Signalons que Agenonga au Forunion est le dernier des 5 assassins des observateurs militaires de la Monuc à être condamné. Les co-auteurs de ce meurtre ont également écopé d'une peine de perpétuité depuis le 18 février dernier et purgent leur peine à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Bounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Au Sud-Kivu, les ressortissants congolais qui travaillent au Rwanda déplorent la brutalité avec laquelle leurs laissez-passer délivrés par l'ambassade de la RDC au Burundi sont confisqués par les services de migration de leur propre pays. Des enseignants congolais qui se rendaient dernièrement en vacances à Bukavu en provenance du Rwanda se sont vus dépouillés de ce titre de voyage à la frontière congolaise. La direction générale des migrations justifie sa position par le fait que ces laissez-passer tenant lieu des passeports sont, selon ces termes, des vrais faux documents. Le chargé d'affaires de la RDC au Burundi soutient quant à lui que ce document est valable partout en RDC, Jean Kassami.
Pour exprimer leur mécontentement, les victimes ont adressé une lettre au directeur provincial de la DGM, Direction générale des migrations. Ils réclament une échéance au cas où la DGM soutiendrait que le laissez-passer délivré par l'ambassade de la RD Congo au Burundi n'est pas valable pour les ressortissants congolais vivant ailleurs. Le porte-parole des enseignants congolais vivant au Rwanda, Olivier Massoudi, exprime leur déception.
Par rapport à ça, nous sommes vraiment étonnés, puisque c'est un document que nous avons acheté légalement à l'ambassade du Burundi, mais curieusement, nous ne comprenons pas que le document est saisi sans une explication acceptable.
La DGM, quant à elle, reste catégorique. Selon son directeur provincial, ce document n'est valable que pour les seuls Congolais résidant au Burundi. Mais il arrive souvent que ces derniers se retrouvent eux aussi dans les mêmes conditions que leurs compatriotes résidant au Rwanda. Cette attitude de la DGM au Sud-Kivu n'enchante pas les chargés d'affaires de la RD Congo à Bujumbura, Kosman Foba.
Nos amis de Bukavu veulent nous mettre en difficulté ici avec la colonie congolaise. Nous avons appris qu'il y aura une délégation congolaise qui va venir ici. On va leur expliquer. Je crois que nous allons remettre tous les documents à la délégation qui sera ici. Et la délégation aura le temps d'expliquer très très bien aux autorités de Kinshasa ce qui nous arrive.
Signalons enfin que ce laissez-passer tenant lieu de passeport délivré par l'ambassade de la RD Congo au Burundi facilite les déplacements dans sept pays de la région. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En bref, le secrétaire général des Nations Unies rend hommage au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour leur communiqué conjoint signé à Nairobi le 10 novembre dernier. Facilité par les Nations Unies, selon Ban Ki-moon, cette approche constitue une opportunité de résoudre de manière globale les problèmes fondamentaux que posent les groupes armés irréguliers présents dans l'est de la RDC.
Vous écoutez Okapi à Gemena sur 95.4 FM, la suite du journal Mireille Boukassa.
Ils étaient une centaine à manifester hier dans les rues de Gemena, dans la province de l'Équateur. Les agents de la RVA Gemena protestaient contre la suspension de paiement de leur salaire depuis 9 ans, constitués aussi bien des immatriculés, des retraités que des veuves, dont les maris sont morts en cours de carrière. Les manifestants n'ont pas atteint le commissariat de district, l'endroit prévu comme point de chute. Ils ont été dispersés violemment par les éléments de la police. Selon le commissaire de district intérimaire du Sud, Ubangi, cette marche n'a pas été autorisée. Joint par Alphonse Wasso, un délégué syndical des agents de la RVA Gemena parle de leurs difficultés.
La RVA a un problème sérieux. Donc ça fait aujourd'hui 115 mois que nous sommes impayés. Ça c'est le premier cas. Il y a le deuxième cas, c'est le cas de nos retraités. Nos vieux sont retraités après 115 mois des arriérés. Ils sont retraités sans même payer leur indemnité. Il y a aussi le troisième problème, c'est le problème des décédés. Depuis qu'ils étaient décédés, il y a des agents décédés et ses épouses ne bénéficient de rien. Donc les modalités ne sont même pas sorties.
Dans la province orientale, les infirmiers de la ville de Kisangani sont en grève depuis hier lundi. Membres du SINCAS, syndicat national des cadres, agents et employés des secteurs de services, disent répondre à l'appel de leurs collègues de l'administration publique de Kinshasa. Le mot d'ordre a été lancé samedi dernier au cours de l'Assemblée générale. Mais cette grève n'est suivie que partiellement dans les grandes formations médicales de la place. André Kitingé.
de 4 grandes formations médicales visitées, nous avons constaté que les infirmiers de 2 grandes formations ont répondu présents à leur lieu de travail. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kisangani et de l'hôpital général de référence de Kabondo. Signalons qu'à l'hôpital général, certains infirmiers affirment travailler pour ne pas perdre la prime de prestation octroyée par la coopération technique belge. Tandis qu'à la référence de Kabondo, les infirmiers disent attendre la concrétisation imminente de ce projet. Et donc, il serait malvenu pour eux de cesser le travail sous peine de perdre la précieuse prime. Par contre, aux cliniques universitaires de Kisangani, le mot de grève est observé, mais avec l'organisation d'un service minimum dans chaque département, nous a déclaré l'infirmier chef de poste chargé des nursing en médecine interne. La même situation est signalée à l'hôpital général de référence de Mangobo. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
109 600 000 dollars américains, c'est l'enveloppe globale du projet du budget pour l'exercice 2008 au Kasaï occidental. Ce projet de budget a été présenté hier lundi à la plénière de l'Assemblée provinciale par le gouverneur de province. Cette séance a été boycottée par la majorité des députés de l'UN qui maintiennent leur décision de déchoir le président de l'organe législatif du Kasaï occidental. Des précisions sur ce projet de budget avec André Kambala.
Ce projet de budget connaît une augmentation de 156% par rapport à celui de cette année. Il tourne autour de 34 priorités, dont l'éveil de la conscience populaire sur les potentialités de la province, l'électrification et la lutte contre la criminalité. Le gouverneur Kapuku a invité toutes les classes sociales à s'engager dans la maximisation des recettes. Il a indiqué qu'une autre partie de ces recettes proviendra du gouvernement central et de bailleurs étrangers. Dans leurs amendements, les députés provinciaux ont exigé le rapport du budget de l'année 2007. Une façon de leur permettre de faire une analyse objective du projet du budget 2008. À la fin, la séance a été renvoyée à mardi pour son adoption ou non. Parmi les 51 députés présents, 20 de l'UN ont suspendu leur participation aux travaux. Pour eux, la plénière de ce lundi devrait d'abord être consacrée à la destitution du président de l'Assemblée provinciale. Dans leur déclaration du 5 novembre, ils ont accusé Omer Mijumbu Chakalao d'incompétent dans sa gestion. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
De l'autre côté, au Kasaï oriental, l'autorité provinciale lutte contre la flambée de prix des denrées alimentaires, surtout du maïs, qui constitue un aliment de base de la province. Au cours de la rencontre d'hier lundi avec les opérateurs économiques du secteur du maïs, 3 mesures incitatives ont été prises, notamment exempter désormais le contrôle de tout camion transportant les maïs, réduire les taxes de maïs. Esther Nalafine.
Ces mesures dites incitatives du gouverneur de province par intérim sont prises suite à la hausse de prix du maïs sur le marché et de certains produits manufacturés. Par exemple, une mesurette de maïs qui coûtait il y a 2 semaines à 450 francs congolais se vend actuellement à 1100 francs congolais. Les opérateurs économiques du secteur expliquent la flambée des prix du maïs en raison de plusieurs facteurs dont notamment la carence du maïs, le transport élevé, la multiplicité des taxes et les difficultés de la SNCC d'acheminer les wagons de maïs à la gare ferroviaire de Mweneditu. Pour mettre fin aux difficultés qu'enregistrent actuellement les habitants de Mbujimayi, Bruno Kazadibukasa, en commun accord avec les vendeurs de maïs, a pris des mesures d'exempter désormais de tout contrôle les véhicules transportant le maïs et entretenir de bonnes relations avec la Société nationale de chemin de fer pour l'acheminement prioritaire de maïs et du carburant. À l'issue de cette rencontre, les participants sont tous unanimes et souhaitent voir l'applicabilité immédiate de ces mesures. Bujimai, Esther Dalafina, Radio Okapi.
Une marche prévue ce mardi au port fluvial de Brazzaville en mémoire des disparus du Beach Ngobila a été annulée hier par les autorités de la République du Congo. Autorisée dans la matinée, cette manifestation a été interdite dans la soirée. Le gouvernement de Brazzaville parle notamment de troubles à l'ordre public. L'organisatrice de la marche, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, se dit étonnée de cette mesure. Arsène Sévérin.
Le préfet de Brazzaville avait pourtant en matinée accordé la manifestation du Beach. Mais dans la soirée, le ministre en charge de l'administration du territoire publie un arrêté qui interdit cette manifestation qui devait être organisée en mémoire des disparus du Beach. Raison évoquée, troubles à l'ordre public et provocation. Le commandant de la zone militaire de défense de Brazzaville, le commandant de la gendarmerie et celui de la police sont chargés d'appliquer la mesure, précise le ministre dans son arrêté ministériel. Je suis étonné, malgré la légalité de la procédure. Voilà comment on fait que Liberté dans ce pays a réagi pour la présidente de la FIDH qui appelle au rebondissement de l'affaire des disparus du Beach devant la justice française. Rappelons qu'en 1999, quelques 353 personnes ayant fui la guerre en RDC avaient disparu au Beach de Brazzaville à leur retour au pays. Le jugement rendu à Brazzaville avait été boudé par la FIDH. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Kati.
8h15 à Kinshasa et c'est la fin de ce journal.